Je suis obligé de me déplacer.
Oui, c'est une bonne idée.
Ouais. Donc je vais m'installer ici et vous serez à l'ombre.
Très bonne idée. Ouais.
Besoin d'aide, le compteur ?
Volontiers.
Est-ce que quelqu'un a retenu le thème de cette année ? Parce que moi, depuis quelques temps, dès qu'il y a plus de deux syllabes, je bug. Style un petit goût de revenez-y ou vous reprendrez bien un morceau, un truc comme ça. De toute façon, cette année, j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. D'ailleurs, ça a été un peu source de conflit avec la directrice artistique. Elle m'a dit, si vous faites n'importe quoi, moi, je fiche le camp. Eh bien, j'ai tenu bon. Et me voici. Et donc elle, ouais, hein, elle n'est pas là cette année. Pour la première fois, depuis 17 éditions, elle n'est pas là. Alors tout de même, parce que sans elle, je crois que le festival occitan, Mike et Mike n'auraient pas la même couleur. Pour elle, qui est actuellement à l'autre bout de l'Occitanie, qui est dans le Gers, je vous demanderai, ici même, pour que vos applaudissements arrivent jusqu'à elle, d'applaudir très fort Pascal Terron. Bon, ça c'est fait. Et bien, puisque nous voici aujourd'hui réunis dans la chaude intimité de cette petite ambiance familiale, je voudrais vous parler de mes parents. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui nous casse les bonbons avec ces darons alors qu'il y a des choses vachement plus importantes. Mais ils sont importants, mes parents. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents qui sont aussi vos arrière-grands-parents. Les premiers grands-parents du monde. Je veux parler d'Adam et Ève. Ouais. Le premier couple de l'histoire, de la préhistoire. Je suis le Stéphane Bern de la préhistoire. Alors, pour que ce soit plus évident, pour illustrer mon propos, il m'en faudrait un homme et une femme. Rassurez-vous, c'est indolore. Bon, après, il ne faut pas avoir peur, on se mettre en évidence. Hein. Et donc, voilà, un homme et une femme.
Se mettre nu?
Eh bien, forcément.
Et tu as la vigne?
La pudeur n'existait pas.
Tu as la feuille?
Et la pomme?
Hélène! Bon, franchement, on m'avait dit que le public de Colombière était coopératif, mais là, vous êtes un peu léger. Heureusement, j'ai un plan B. Je m'en doutais un peu. Hop! Alors, j'ai pas testé, je vais voir si ça marche. Vous avez un moment ? Pour la manche, surtout.
Pas mal.
Voilà. Vous c'est râpé. Vous le suivrez à la télé. Adam. À ma droite, Adam. Sexe masculin. Âge indéterminé, pas de nombril parce que c'est le premier. Les cheveux bouclés, il n'a pas la coupe en brosse, Adam. Premier acte, la création. Est-ce qu'il y aurait un musicien parmi vous? Oui? D'accord. Alors, tu nous fais la musique de la création, s'il te plaît. Mais attends. Bref, quand même, parce que la vedette, c'est moi, c'est pas toi. Hein. Donc un petit truc style création.
C'est bien.
C'est bon, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. premier acte, la création. Le Créateur a créé la terre, a créé un jardin, mais vous savez ce que c'est un jardin, s'il n'est pas entretenu, c'est vite la forêt vierge. Donc il lui faut un jardinier. Donc il va créer Adam, le premier homme, le premier jardinier. Il prend un peu de poussière de la terre toute neuve, il ajoute un peu d'eau de source, il pétrit l'ensemble pour faire une boule de glaise, il souffle son souffle divin, et voici naître le premier homme, notre papa à tous. Et il installe le jardin. Mais très vite, vous savez comment sont les hommes, très vite Adam s'ennuie, il s'emmerde. Personne avec qui jouer au Scrabble, personne avec qui tricher aux cartes, pas de journal télévisé, il s'ennuie. Adam s'ennuie. Alors que disent les textes à ce propos? Dieu lui propose de nommer toutes les bêtes de la création. Ça va l'occuper un moment. Alors il commence, ça chat, ça poux, ça chien, ça loup, ça daim, ça chi, ça pu... ça pont, ça pie, ça ver, ça pivert, ça ornithorynque, ça manche empereur, etc. C'est pas suffisant. Adam s'ennuie toujours dans le jardin d'Éden. Oui, parce qu'il faut que je vous dise que le jardin, il s'appelle Éden, ce n'est pas le jardin d'Éden. Bien sûr qu'il y a d'Éden dans le jardin, il y a d'Éden, il y a des chevreuils, il y a des biches, il y a des bambis, mais c'est, on l'appelle le jardin d'Éden. Bon, ne cherchez pas. Hein. Donc, Adam, elle se marre. Non, mais vas-y, lâche-toi. Hein. Et donc, Adam s'ennuie toujours. Et Dieu, dans son immense mansuétude, lui dit, il faut une compagne. Donc il va créer une compagne. Personne ne veut se dévouer, toujours pareil. Bon, alors on a tellement glosé à propos d'Ève, etc. Et vous la connaissez peut-être l'histoire, la gamine. Papa, papa, comment ils étaient nos grands-parents? Eh bien ma chérie, nos grands-parents c'était ce qu'on appelle des hominidés, c'était des grands singes, et qui, mais ne te marre pas, c'est vrai, qui ont évolué petit à petit, qui sont devenus tes grands-parents, qui sont devenus nous-mêmes, et toi-même c'est ça la lignée. Ah, merci, papa! Mais la petite n'est pas tout à fait convaincue. Elle va trouver maman. Maman, maman, comment ils sont nés nos premiers grands-parents? Eh bien, ma chérie, la Bible nous dit qu'au départ, initialement, Adam et Ève ont créé toute la lignée qui sont arrivées jusqu'à tes grands-parents, nous-mêmes et toi. Ah bon, merci, maman. Mais maman, dis-moi, pourquoi toi, tu dis qu'on est né d'Adam et Ève et papa, il dit qu'on est né des grands singes? Eh bien, ma chérie, c'est très simple. Moi, je parlais de ma famille, lui parlait la sienne. On a tellement dit de choses à propos d'Adam et Ève. On a dit, pourquoi Ève a été créée après Adam? Eh bien, parce qu'avant de faire un chef-d'œuvre, on fait toujours un brouillon. Facile. Facile. On a dit, ça c'est plus sérieux, ça, je suis sérieux depuis le début. On a dit ceci, Ève est sortie d'une côte d'Adam. Faux, faux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on trimballe cette histoire jusqu'à nos jours? Tout simplement parce que l'histoire que je vous narre, aujourd'hui, en langue locale, en langue vernaculaire, ici le français, cette histoire a été traduite du latin, qui lui-même a été traduit du grec, qui lui-même a été traduit de l'araméen, qui lui-même a été traduit de l'ancien hébreu. Donc vous imaginez, à chaque traduction, une trahison. Traduire, c'est trahir. Les premiers textes de la Genèse, le plus ancien texte littéral de la Genèse, dit même « Adam et Ève ont été créés ensemble ». Et ça change tout. Ève a été tirée de la moitié d'Adam. Donc voici les deux moitiés complémentaires, hommes, femmes, mâles et femelles, unis pour découvrir le monde, pour profiter de ses joies, de ses plaisirs, pour essayer de comprendre le monde et, si possible, de lutter contre le mal et l'injustice. Le Coran dit même, je prends mes tustes. Le Coran dit même. Le Coran dit même. Sourate 4, verset 1. Votre Seigneur vous a créé d'un seul être et d'une seule âme, et a créé à partir de celui-ci son couple, et de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Alors c'est vrai qu'après, dans la Genèse, on dit « croissez, multipliez et remplissez la terre ». Alors là, mission accomplie, hein. L'humanité a croissé, a cru et s'est multipliée jusqu'à à remplir le monde. Et finalement, elle n'a plus d'autres prédateurs qu'elle-même. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, quand Adam voit Ève pour la première fois, il s'écrie « Ah, la voici, la chair de ma chair, le cœur de mon cœur, les os de mes os, les doigts de mes doigts, les pieds de mes pieds, les reins, etc. Musique. Est-ce qu'il n'y a pas un trompettiste nommé Sidney Bechet d'Allah? La voici. Vas-y, à toi. Ah, c'est bien, c'est bien. Je cherche la page 17.
Allez, après 16. Oh, ok.
17. Je voudrais voir Ève, oui. Quand même. Ève, où elle est. Ah, voilà.
Et merci. Sidney Bechet parmi nous. Merci, Sidney. Henri Gougaud raconte également cette histoire juive entre un vieux rabbin, donc professionnel de la Torah, et un jeune scientifique. Et le rabbin argumente, Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, à partir de 5000 ans à peu près. Et le jeune scientifique dit, mais non, vous déraisonnez, pardon, respect pour vous, mais vous déraisonnez. Vous savez désormais, avec les recherches scientifiques, qu'on est allé beaucoup plus loin que les 5000 ans. Mais le rabbin dit, non, je t'assure, c'est dans les textes sacrés, j'y crois fermement. Mais enfin, arrêtez de dire, la préhistoire, Cro-Magnon, la grotte Chauvet, enfin, on sait que ça va beaucoup plus loin, l'histoire de l'humanité. Alors le rabbin dit, ouais. Mais je trouve ton histoire qui manque beaucoup de poésie. Elle est trop plate. Je préfère la mienne. Vois-tu, le Créateur a créé le Père Adam, la Mère Ève, à peu près il y a 5000 ans, et en même temps leur passé. Alors, moi je vous ai parlé du sens littéral de la Genèse, égalité. Mais petit à petit, le sens a été modifié, on lui a tordu le cou. Et par qui, s'il vous plaît? Par les hommes. Chaque fois, ce sont les hommes qui se sont emparés des textes sacrés, qui sont pourtant clairs, et qui ont tordu le cou. Alors ça a donné, ouais, l'homme et la femme, ils sont égaux, c'est vrai. Mais l'homme, il est un peu plus égaux que la femme, quand même. Et puis d'ailleurs, regardez l'étymologie, féminin, fémina, fé, la foi, mina, minus. Elle a moins de foi. Et ouais, elle a moins de... Et ouais, mais ça, c'est sous la pression des pères de l'Église, dès le deuxième siècle. Et finalement, notre... Hein? Ouais. On me fait perdre le fil. Et donc... Les hommes ont dit, ben, les textes sacrés, ils sont là, quoi. Les femmes sont inférieures à l'homme, hein, c'est marqué. Et puis, commence pas à me chauffer avec ton égalité, sinon tu vas encore prendre sur la gueule. Effectivement, notre culture patriarcale, depuis environ 2000 ans jusqu'à nos jours, trimballe cette notion de l'homme gros cerveau, gros tout, et de la femme sans tête. Heureusement, les femmes sans tête. Là, je suis sûr de faire un tabac avec la moitié de l'assistance. Au XVIIe siècle, une petite vénitienne qui demandait rien à personne, qui s'appelait Arcangela Tarabotti. Son père décide à 13 ans de la mettre au couvent. Elle va y rester jusqu'à sa mort. Alors naturellement, dans sa prison, dans son couvent, elle a le temps de réfléchir. Elle est à la fois religieuse, elle n'a pas le choix, et féministe. Et elle écrit un ouvrage qui s'appelle « De la tyrannie paternelle », où elle dit ceci, ouvrez les guillemets, « Dieu n'a pas dit à Adam, tu domineras la femme, tout de son nez libre, tout de son nez égaux, et porte comme un don précieux de Dieu le cadeau inestimable du libre arbitre. Fermez les guillemets. Alors il faut dire que la petite Arcangela Tarabotti, son ouvrage a été publié 2 ans après sa mort, en 1514, et a été aussitôt mis à l'index, par l'Inquisition. Musique !
Sydney, oui.
C'est à partir de gravures de Dürer que... Non, je suis sérieux, bon, mais je l'ai fait un peu à l'arrache, mais bon. Acte 2, le jardin d'Éden. Donc, les voici tous deux dans le jardin. Le créateur leur dit, open bar, vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition, vous pouvez toucher à tout, vous pouvez vous emparer de tout. Sauf
la pomme.
Le premier tabou de l'histoire, sauf cet arbre que vous voyez là-bas, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, là-bas, pas touche, c'est péché.
C'est un péché ? Non, c'est un pommier.
Alors tu me voles mes effets parce que j'allais le sortir à la suivante. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc vous pouvez toucher à tout sauf. Ça me rappelle cette formule. En Angleterre, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. En Allemagne, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. En Russie, tout ce qui est autorisé est quand même interdit. Et en France, tout ce qui est interdit est quand même autorisé. Donc les voici. Mais franchement, le Créateur a fait l'homme et la femme faillibles, vulnérables. On sait de quoi ils sont capables. Ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. On les lâche là-dedans. Faites ce que vous voulez. Enfin, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Ben, pareil, voilà. En fait, et puis même, s'ils avaient obéi à Dieu, imaginons, tu ne serais pas là. Ni toi, ni vous, ni nous. Hein ? Non, c'était couru d'avance. Pas de musique, hein ? Je prends mes tus. Ah, ben voilà ! Merci.
La transition.
Bravo. Continue.
Il est bon quand même, hein. En plaquant vite son moulin, le type. Hein.
Continue.
C'est Dieu qui téléphone.
C'est Dieu.
Il n'est pas d'accord.
Tu lui dis d'attendre un peu pour moi.
Je lui dis.
Alors, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? C'est pas l'acte sexuel, c'est pas l'amour physique. Adam et Ève vivaient d'amour et d'eau fraîche et de plaisir innocent au paradis. Donc, contrairement à tout ce qu'on a pu dire et broder par la suite, ce n'est pas l'acte sexuel. L'amour est bon, le plaisir est bon. Est-ce la connaissance ? Non plus, ce n'est pas la connaissance. On a tous le devoir d'accéder à la connaissance, à la culture, à la compréhension du monde. Mieux le comprendre, non pas pour le dominer, mais pour vivre avec lui. Donc, ce tabou originel. Non, ce n'est pas l'amour. Continuez. Ce n'est pas la connaissance. Continuez. Qu'est-ce que c'est ? La limite absolue, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est celle qui sépare les bonnes choses des mauvaises, c'est celle qui sépare le bien du mal, c'est celle qui sépare nos actions de bonheur, de plaisir, de compréhension face à l'injustice, à la méchanceté, à la guerre. Voilà. Ce que c'est.
Bravo.
Que la connaissance du bien humain. Musique. Ça va ?
Ouais.
chaud.
Excellent. Merde, j'ai oublié.
Ah oui. Alors, c'est quoi ce fameux arbre défendu? À toi, prends le micro. C'est quoi ce fameux arbre défendu?
C'est un pommier.
Mais non, c'est un péché, tu m'as dit. Oh.
Oui, mais c'est péché de dire que c'est un péché.
Voilà. Donc, c'est pas un péché. De toute façon, ça aurait pu être un baobab, un figuier, un bananier, n'importe quoi d'autre. Cet arbre, c'est une métaphore. Alors, on a dit, communément, on a dit c'est un pommier. Ah, le pommier, le voici, le pommier. En fait, Adam et Ève ont été victimes d'un vilain jeu de mots. Parce qu'en latin, le mal se dit malus. Mais le mal, le malus, c'est aussi un pommier. Hein? Donc voilà le jeu de mots, le mal, le péché, la pomme, etc. Et cette pomme, cette pauvre pomme, où est-ce?
Elle est tombée.
Voilà. Alors, hey, on les laisse faire.
Mais... Ouais, là, c'est ça.
Et ça, c'est pas prémédité. Hein?
Louvain voilà. Habitat acquis à allez, l'image d'Ève contre quelle de Adam. Yeah. C'est Révire de Haute Custa, c'est le premier père d'arrêt.
Versatile. Et cette pomme a traversé les âges avec en véhiculant tout un tas de significations plus ou moins symboliques. Voyez. Ouais, c'est un détour. Vous voyez Blanche-Neige, la pomme empoisonnée. Et puis, la pomme empoisonnée. Et du coup, une fois qu'elle a croqué la pomme, elle risque d'avoir des...
Des enfants.
Des pépins. Et une fois qu'elle a croqué la pomme, elle tombe dans les...
Pommes.
Vous connaissez l'histoire? Et quand elle se réveille, elle est
paumée.
Et depuis, l'histoire a suivi, plus près de nous. Je peux pas compter, mais jamais autant. Plus près de nous, Newton avec sa fameuse pomme, assis sous un arbre, tout, une pomme tombe. Il dit ça, c'est la gravitation universelle. Et ça, c'est balèze. C'est balèze. C'est un peu comme si je buvais le café trop chaud et je dirais, ça c'est la seconde loi de la thermodynamique. Ouais. C'est la différence qui sépare un génie d'un type comme moi. Ouais, vous marrez parce que vous dites, moi je ne suis pas concerné. Moi je sais ce que c'est la seconde loi de la thermodynamique. D'accord. Plus près de nous, Alan Turing, le génial... inventeur informatique qu'on retrouve plus ou moins suicidé à côté d'une pomme. Plus près de nous, un célèbre fabricant de computers avec son logo de la pomme croquée. Plus près de nous, alors là, c'est le moment de vérité. Plus près de nous, très près de nous, trop près de nous. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré. Je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vient me mordre dedans. Mais elle est passée en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Oh, para bambero, yo, para bambero, yo, para bambero, yo, para Alors la version, encore une fois, la plus communément admise, le péché originel, c'est la femme, bien sûr. Elle est faible, la tentatrice, elle est vulnérable, la, la garce, la vilaine, la sorcière, la démone, la salope. Mais encore une fois, c'est une version éminemment masculine. Et elle date, on a le responsable, c'est Augustin d'Hippone, dit Saint-Augustin au IVe siècle, qui invente la notion de péché originel. Voilà, si l'homme et la femme, Adam et Ève, ont fauté, ont failli, ont trébuché, et bien depuis, nous on est tous, tous punis. C'est elle qui a fait la connerie, mais on est tous punis. En réalité, si on lit les textes, Torah, Talmud, Genèse et la Bible, on ne trouve pas trace du péché originel. Le péché originel a été inventé après. Ève n'est pas plus responsable qu'Adam de la chute.
Ah, c'est bien de l'entendre.
Dans le Coran, c'est Satan, Shaitan dans le texte, c'est Shaitan qui a fait trébucher leurs pieds, c'est une image magnifique. C'est Satan qui a fait trébucher leurs pieds et qui les a bannis de l'endroit où ils se trouvaient. Donc, exit l'histoire du péché originel. On continue à vivre notre bonne vie, quoi, comme on a toujours fait. Et puis, laisser tomber ces vieilles lunes, encore une fois, qui sont une invention postiche, postérieure et machiste. Alors, la direction me fait signe que il faut accélérer. Si tu as Adam et Ève, il faudrait qu'on se retrouve là 5000 ans après. Bon, alors on va faire très vite. Je fais très vite. Pourquoi devrions-nous nous repentir éternellement pour le premier péché? C'est que le mythe du péché originel abonde. Tu engendreras dans la douleur, comme si faire un gosse, c'était pas plus difficile qu'une crise de colique néphrétique. Ou bien tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà, ça c'est la malédiction. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Sauf naturellement ceux qui ont 700 hectares de bonnes terres céréales subventionnées par l'Europe, ceux qui ont un yacht dans la baie de Monaco, ou ceux qui se sont fait des couilles en or chez Rothschild.